Nous vous rappelons de mettre en veille vos téléphones, s'il vous plaît, à l'aide de étoile 6. Si vous voulez prendre la parole et qu'il vous faut enlever le muet, vous pouvez appuyer sur étoile 7. Merci. Autrement, si vous êtes connecté à travers l'ordinateur, vous pouvez vous mettre en muet à l'aide de votre microphone. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Alissa qui parle ici. Vous m'entendez? Il n'y a personne qui acquiesce? Bien, alors, il est 21h02, donc il faudrait que l'on commence. Je ne sais pas s'il y a toujours des gens qui sont en train de se connecter. Mais comme d'habitude, nous allons afficher sur l'écran d'Adobe Connect les documents dont nous discutons. Et s'il y a quelqu'un qui participe à cet appel qui n'est pas connecté à Adobe Connect, il faudrait nous le faire savoir dès maintenant. Bien, c'est Alissa qui reprend la parole. Il semble que tout le monde est connecté sur Adobe Connect. Vous voyez en ce moment l'ordre du jour que nous avons convenu pour l'appel d'aujourd'hui. Nous allons avoir un appel de 2 heures dans lequel nous allons commencer à discuter de la lettre que l'ICC a reçue de la NTIA et puis la préévaluation du CWG sera le point numéro 2 de l'ordre du jour. Puis par la suite, nous allons discuter de la réponse du président du conseil d'administration de la CAL, Steve Crocker, concernant la déclaration de l'ICG sur les contrats. Et puis à la fin de du point numéro 3 de l'ordre du jour, nous allons laisser aller les interprètes. Juste avant de commencer avec ce point numéro 3, donc nous allons avoir une discussion aussi agile que possible. Et à la fin de l'appel, nous allons avoir quelques questions plutôt administratives à aborder vers la fin de l'appel, comme par exemple l'approbation des procès-verbaux de notre dernier appel pour ce point, nous n'avons pas besoin des interprètes. Et puis nous allons discuter de la programmation des téléconférences futures. Alors, est-ce que cela vous convient? Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à cet ordre du jour? Une personne non identifiée prend la parole. Alissa, on ne vous entend pas très bien. Alissa dit, bien, j'essaierai de parler plus fort. Daniel prend la parole. Alissa, moi, je vous entends bien. Alissa prend la parole. Bon, tant mieux. Bien. Alors, il n'y a pas de remarques concernant l'ordre du jour, donc nous allons poursuivre comme on a convenu. On va donc commencer par la lettre que nous avons reçue de la NTIA. C'est une lettre qui a été envoyée au secrétariat. Vous êtes tous sans doute au courant de cette lettre. Ça fait déjà quelques semaines que nous l'avons reçue. Et pour nous, en fait, ce qu'il faut que l'on fasse et ce que la NTIA demande de nous, c'est d'obtenir davantage d'informations. Et il y a quelques points qu'il faudrait que l'on discute avant de pouvoir avancer. Donc voilà pourquoi on a d'abord diffusé la lettre à travers la liste pour que tout le monde la voit. D'une part, on a une question logistique qu'on voudrait que la communauté participe pour la préparation de cette réponse que nous allons envoyer à la NTIA. Il y a différentes unités constitutives et différents secteurs de la communauté qui vont devoir participer. pardon, j'ai un bébé qui pleure. Je sais que vous l'entendez. Oui, on l'entend tous. Oui, il n'est pas très intéressé par la transition de Yana en ce moment. J'essaierai de reprendre ici dans quelques secondes. Je vais demander à quelqu'un d'autre de prendre ma place. C'est ça qui prend la parole. Je vais occuper le poste de Alissa ici pendant quelques instants. J'ai reçu cette lettre et je l'ai lue. Et bien sûr, c'est une lettre qui peut être interprétée de différentes manières. Nous avons déjà discuté de l'échéancier sur la liste de diffusion et c'est l'une des questions que la NDIA reprend. Mais ce que l'on devrait noter par rapport à cette lettre est que l'échéancier n'est pas simplement ne devrait pas simplement comprendre le temps qui nous reste entre maintenant et la date de remise de la proposition à la NDIA, mais que cet échéancier devrait également comprendre le temps que la NDIA va exiger pour pouvoir mettre en œuvre cette proposition. On ne sait pas combien de temps cela va être, mais il y a également quelques mesures qu'il va falloir que l'on considère. Donc, ils ont demandé des contributions sur les différentes idées qu'on pourrait avoir par rapport à toutes ces questions de temps. Donc, je voudrais que l'on ouvre ici la discussion pour que tout le monde participe. Que l'on sache que si on ne parvenait pas à respecter tout ce qui est demandé de nous, à remplir toutes les conditions dans le temps requis, avant la fin septembre, avant le 30 septembre, il va falloir que l'on ait un plan de contingence. Mais, donc, je demande cette extension, il va falloir que l'on demande le temps nécessaire et pas plus. Mais il faut qu'on s'assure d'avoir suffisamment de temps en même temps. Donc, je pense qu'il faudrait que l'on considère quel serait le délai d'extension potentiel nécessaire réel. Je vois déjà certains qui envoient leurs commentaires à travers le chat, mais je voudrais également faire participer tous les membres de l'ICG. Si vous avez des idées à partager avec nous par rapport à cet échéancier, faites-le. Bob Orish, allez-y. Bob Orish Noben prend la parole, merci. Pour être sûr que j'ai bien compris ici le processus complet, d'abord, je voudrais demander comment pensez-vous que nous allons répondre à ces questions de la NDIA par rapport au calendrier ou à l'échéancier? Ils ont envoyé deux lettres, si je ne me trompe. Une lettre à nous, l'ICG, et ils ont également envoyé une autre lettre au CWG. C'est bien ce que j'ai compris, n'est-ce pas? Donc, dans ce sens, on est considéré comme des aidants par rapport au travail du CWG, de l'équipe CRISP, de l'IETF aussi. Au moins, c'est ça ce que j'ai compris. Donc, ici, la question pour moi, c'est comment devrait-on élaborer cette réponse? Oui, une personne non identifiée prend la parole. Merci, Wolf Ulrich. J'ai compris exactement ce que vous dites. Nous, en tant que ICG, devrions répondre à cette question. Et si on est très, très détaillé, parce que la lettre n'a pas été envoyée à l'ICG total, mais à nous, les trois coprésidents de l'ICG. Donc, nous trois devons répondre à ces questions qu'ils ont posées par rapport au délai. Mais on a accordé au sein du groupe que l'éco-président n'allait pas répondre au nom du groupe sans discuter des questions avec le reste du groupe. Donc il va falloir que l'on atteigne le consensus nécessaire pour pouvoir parler au nom de l'ICG. Mais j'espère vraiment qu'on ne devra pas entrer dans les détails. Mais tout cela est compris dans les détails qu'ils nous demandent. Donc, lorsqu'on a reçu cette lettre, on s'est posé les mêmes questions que vous posez maintenant. On s'est dit qu'il va falloir que l'on tienne compte des périodes de temps que les trois communautés vont exiger pour pouvoir mettre en œuvre leurs propositions, peu importe quelles seront ces propositions. Et puis, les trois coprésidents de l'ICG sont responsables de pouvoir considérer quel est le temps qu'il leur faut pour pouvoir faire leur travail de transition IANA, le travail qui les occupera par rapport au transfert de la NDIA, pour faire un suivi, par exemple, ou une évaluation. Donc je pense que j'ai bien compris ce que vous avez dit. Alissa, allez-y. Alissa Cooper prend la parole. Merci Patrick. Oui, je voudrais que l'on reprenne la partie de la logistique de la réponse pour la NDIA. Si le cible est de pouvoir envoyer une réponse à la NDIA juste après notre réunion dans le cadre de ICANN 53, il me semble qu'il faudrait que l'on considère pendant ce temps, d'ici à la réunion de Buenos Aires, quels sont les délais dont les trois communautés auraient besoin pour pouvoir mettre en œuvre leurs propositions. Donc il va falloir que l'on discute avec ces communautés des délais dont ils auront besoin pour ce faire. Et donc pour travailler sur la mise en œuvre, une fois que la proposition de chaque communauté sera achevée. Donc il faudrait que la communauté participe, en particulier par rapport au calendrier, au délai. Et donc, une fois qu'on aura reçu ces informations des différentes communautés, on devra rediscuter de la question au sein de l'ICG avant d'envoyer une réponse à la NDIA. Alors, on devrait peut-être discuter de cette possibilité à travers la liste de diffusion pour que tout le monde puissent également présenter leurs propres propositions au nom des différentes communautés opérationnelles. Bon, oui, je veux prendre la parole. Patrick prend la parole. Merci Alissa de ces précisions. Nous comprenons tous alors les mêmes idées de cet être. Maintenant, par rapport au calendrier, il y a cette question de mise en œuvre. Et du type de niveau. De mise en œuvre doit être considéré, qui doit être intégré à la proposition qui sera remise à la NDIA. C'est-à-dire que la lettre où on demande la proposition et puis la mise en œuvre des propositions de la communauté, et d'autre part, si on considère la proposition du CWG, il parle du type de cadre de transition qui devrait être développé davantage dans le plan de transition détaillé une fois que la transition sera finie. Alors pour moi, la question est s'il s'agit d'une mise en œuvre ou s'il s'agit d'un plan de mise en œuvre. Pour moi, ce n'est pas vraiment clair. À quel point la proposition devrait comprendre le plan de mise en œuvre dans quelle mesure cela devrait être respecté et quels sont les différents types d'informations qui devraient être comprises dans ce calendrier. Je pense qu'il faudrait que l'on discute de ces questions. Peut-être que certaines des personnes qui sont ici connectées, certains des autres membres de l'ICG auront des contributions à faire. Pas de soucis, je vais en prendre la parole. Merci, je pense qu'ici on est un peu centré sur des détails qu'il est important que l'on réponde, que l'on discute entre nous. Mais quant à la réponse à cette lettre, je ne sais pas si c'est vraiment important. Comme réponse, il faudrait peut-être que l'on considère si serait nécessaire de demander un prolongement de ce délai ou pas, et si ce délai devrait être un délai de 2 ans de prolongement ou de 6 mois, par exemple. Alors, la réponse qu'il nous faut, on ne devrait pas vraiment prendre une décision maintenant pour l'envoyer à la NDA et puis voir qu'il faut en fait que l'on corrige cela plus tard. Alors, suivant notre processus multipartite ascendant, il faudrait que l'on voit qu'est-ce qu'on veut recommander à la NDA de faire par rapport à notre contrat. Et je pense que peut-être qu'il va nous falloir un prolongement. Donc il faudrait que l'on évalue comment on va demander ce prolongement de la période. Paul Wilson prend la parole. Pardon, je n'ai pas une connexion très bonne. J'espère que vous m'entendrez. En ce qui concerne ce prolongement, j'aurais pensé que un prolongement de 3 ans n'est pas vraiment ce qu'on voudrait avoir. L'idée, je pense avoir compris, est que le prolongement de temps pourrait en fait être demandé si on a déjà une date à laquelle on croit pouvoir conclure notre travail. Donc on ne peut pas demander des extensions de prolongement de 2 ans. Mais cela me fait penser vraiment à ce qu'on fait ici. Ça me fait reconsidérer notre travail. Alors, j'ai un peu eu du mal à suivre ici la discussion sur l'élaboration de notre travail dans le court terme. Donc, est-ce qu'il faudrait un prolongement dans le court terme? Ou croyez-vous qu'il nous faudrait un prolongement de 2 ans? Je ne pense pas que 2 ans de plus soit vraiment un signe de bon travail de notre part.
Merci beaucoup, Daniel. Oui, Daniel, au micro, je crois, par rapport à cette discussion, que une extension de 2 ans, je ne sais pas si cela donnerait le bon signal à la communauté. J'ai une autre question, en fait, qui me vient à l'esprit. Ce qui me préoccupe quand même, c'est l'impression que nous donnons en tant que, ou à titre de notre rôle de communauté multipartite, et il me semble qu'il nous faudra admettre que nous n'avons pas respecté les délais pour obtenir une proposition totale. Et donc, je me pose la question, bien franchement, de savoir si on ne va pas donner une mauvaise impression à nos antagonistes. Donc, ne serait-il pas mieux de proposer une mise en œuvre partielle, peut-être, pour faire avancer les choses aux yeux de la communauté? Et il peut y avoir déjà des plans qui peuvent être mis en œuvre de manière plus rapide. Donc, il pourrait peut-être y avoir en fait une étape de mise en œuvre, de transition, qui montre en fait que nous avons fait des progrès tangibles. Et donc, cela permettrait d'éviter toute argumentation comme quoi il y a un problème de fonctionnement. Merci beaucoup. Nouvel intervenant, s'il vous plaît. Merci Patrick. Merci à tous d'organiser cette séance de remue-ménage. Alors j'aimerais vous faire part de mon point de vue. Je ne suis pas très au clair sur quelque chose. Donc on parle de mise en œuvre sur 6 mois. On parlait des communautés opérationnelles et d'une mise en œuvre sur 6 mois. Alors, est-ce que cela veut dire que l'ICG soumet la proposition à la CAN et ensuite à la NTIA et que nous avons une période d'évaluation et on ne sait pas exactement quelle va être la durée de cette période au niveau du gouvernement américain et ensuite, en termes de mise en œuvre, on dit 6 mois. Bon, alors, est-ce que cela va représenter la durée de l'extension? Et, bon, est-ce que tout doit être prêt en même temps? Est-ce que c'est en fait un petit peu comme de mettre en marche une machine? On appuie sur le bouton et au bout d'un moment, tout est mis en œuvre? En fait, comment est-ce que cela va réellement fonctionner? Quel est le processus? Et si par exemple le contrat est annulé avant, eh bien quelle est la période sur laquelle nous nous mettons d'accord? Est-ce que c'est une option? Ou est-ce que nous nous engageons à la période de mise en œuvre que nous arrivons à mettre en place avec les communautés opérationnelles. Donc, encore une fois, moi, selon ce que je comprends, la mise en œuvre devrait être en fait l'extension du contrat. C'est ça? J'ai bien compris? Alors, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Bon, ma question, c'était de savoir si le délai de la mise en œuvre était en fait à égalité, était la même que la période d'extension. Allez, sage, au micro, je vais reprendre la parole, si vous permettez. Merci. Alors, il y a en fait 3 phases à la base par lesquelles il nous faut passer avant donc l'expiration. La proposition doit être finalisée envers la NTA. Ensuite, il y aura évaluation du gouvernement et ensuite, il y aura un plan à mettre en œuvre sur la base de la proposition. Et à la fin de ces 3 phases, donc comme le dit la lettre, à la fin de ces 3 phases, le contrat pourra arriver à échéance. Et donc, ce sur quoi nous devons nous concentrer, ce sont les 2 points, donc par rapport aux communautés, donc finalisation de la proposition en elle-même et mise en œuvre. Et je crois qu'il ne faut pas rentrer dans tous les détails de comment, à quel moment est-ce qu'on va arriver à expiration, possibilité d'extension, etc. Tout ça, c'est une question de mécanisme. Mais ce qu'on nous a demandé, c'est notre point de vue par rapport à ce que nous contrôlons et le temps que nous pensons qui va être nécessaire pour donc finaliser la proposition en elle-même. Et donc, nous espérons le faire d'ici l'automne. Et donc ça, c'est, il faut donc donner le temps à l'ICC de le faire. Et puis mettre en œuvre ce qui sera écrit dans la proposition. Et donc, dans tout ceci, il y a donc les statuts, le règlement constitutif. Et donc, c'est là-dessus qu'on aura besoin du point de vue des communautés opérationnelles pour savoir un petit peu combien de temps il va nous falloir. Et je crois que il y aura une période d'évaluation qui donc qui va bien sûr faire suivre, mais ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est combien de temps est-ce que nous prévoyons pour notre partie du travail. Alors, je crois que Kavos avait levé la main. Donc je vais passer la parole à Kavos. En ce qui concerne le deuxième paragraphe de la lettre de la NTIA, il y a une question. Une question en deux parties. Premièrement, donc combien de temps va-t-il falloir pour finaliser? Et puis le plan et ensuite l'évaluation. Donc, nous devons séparer le plan de transition et la mise en œuvre. Ce sont deux choses différentes. Le plan de transition, c'est en fait déjà une première réponse. Le plan de mise en œuvre, je pense que l'ICG n'a rien à voir par rapport à ce plan de mise en œuvre, parce que ce plan dépend du CCWG et du CWG. Donc, je crois qu'il n'est pas approprié pour l'ICG de s'approprier ou d'assumer cette responsabilité. Alors, on peut effectivement estimer des délais, mais pour ce qui est de la mise en œuvre, eh bien, cela dépend de ces deux autres communautés ou groupes, donc CWG et CCWG. CCWG selon le délai, eh bien, le délai est du 16 juin 2016. C'est la date qui a été fixée. Et donc, il ne faut pas mélanger les rôles. Donc, la date est de juin 2016. Et donc voilà pour moi ce qui est important, de séparer les deux choses, la mise en œuvre et le plan de finalisation. Et donc il nous faut répondre à la question de la manière suivante. Par rapport à la question de l'extension du contrat, cela ne fait pas partie de notre travail et de notre mission. Nous ne devons pas répondre à cette question. Et donc, il est important de bien définir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Et je pense que, d'ailleurs, les autres groupes répondront en ce qui les concerne. Et donc, il ne nous faut pas nous occuper de la mise en œuvre. Cela sort de notre, ce n'est pas de notre ressort, cela sort de notre, de ce qui nous concerne. Merci beaucoup. Je suis d'accord, nous devons prendre en considération les délais dont nous avons besoin en tant qu'ICG pour répondre et nous devons tirer nos conclusions dans le contexte de notre travail. Alors, nouvelle intervenante, pardon. Si on regarde les deux phases, donc la première phase, donc nous avons besoin du point de vue de toutes les communautés, nous attendons encore le point de vue d'une communauté, donc nous devons essayer de voir un petit peu où en est le CWG d'obtenir une réponse par rapport à leur délai, quand est-ce qu'ils auront une proposition à nous donner. Et ensuite, nous aurons le temps de faire notre travail. Nous l'avons déjà donc sur le diagramme qui est affiché, donc nous pouvons l'ajouter. Alors, le document, le calendrier que nous avons publié nous indique que la mise en œuvre commencera dès que la proposition sera soumise et que toutes les différentes activités auront lieu en parallèle, sauf le processus d'approbation de zone racine qui ne peut pas être modifié tant que le contrat existe. Donc, la dernière petite partie, en fait, ne peut pas avoir lieu tant que le contrat avec la NTA n'a pas expiré. Donc il faut quand même expliquer cet effet de cascade à la NTA, je pense. Merci beaucoup. Martine, s'il vous plaît. Alors Martine au micro. Merci Patrick. J'aimerais revenir un petit peu sur ce dont on a parlé au début, sur le commentaire qui a été fait et je crois que le message n'est pas juste. Je crois qu'il avait été dit qu'il y avait une certaine complexité du problème dans les différentes communautés, qu'il ne fallait pas oublier la question de sensibilisation, la question du nombre de personnes et un petit peu de leur situation. Les progrès, je pense, sont assez extraordinaires. Mais en même temps, les choses sont faites avec précaution. Donc, lorsque nous parlons de tout ceci, nous devrons parler des réussite du processus, de tout ce qui a été accompli au sein du processus. Alors, autre commentaire sur lequel j'aimerais revenir, c'est la question de proposer une transition par étapes. Je crois que la NTIA a déjà dit de manière très très claire que ce n'est pas une option. Maintenant, en ce qui concerne la discussion sur la lettre de la NTIA, je pense réellement que nous n'avons pas tous les morceaux du puzzle, mais nous savons à qui nous adresser pour obtenir ces autres éléments, pour ensuite tout rassembler et identifier quel pourrait être le calendrier. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle on ne devrait pas leur poser cette question. Et quand je dis leur, je fais référence à l'ICANN, parce que je pense qu'il devrait être possible de collaborer, par exemple pour ce qui est des statuts constitutifs. Maintenant, ce qu'on ne peut pas leur demander, c'est donc, une fois que la proposition sera envoyée à la NTIA, une fois que la NTIA y travaillera, il n'y a aucune raison pour laquelle la CAN et d'autres parties ne pourraient pas déjà commencer à s'assurer d'avoir tous les éléments nécessaires en place de manière, par exemple, tout ce qui est les statuts, les changements, la structure de la société, tout ceci devrait pouvoir se faire de manière assez rapide. Donc, si nous rassemblons tout cela, tant que nous posons les bonnes questions sur la manière dont ces différents éléments seront mis en place, je pense que les choses devraient pouvoir se passer de manière assez facile. Nous pourrons définir notre propre calendrier, tout rassembler et avoir au moins moyen de définir un scénario idéal selon lequel tout pourrait être prêt et la NTIA pourrait à ce moment-là nous donner le feu vert à cette date. Donc moi, Je pense qu'il faut faire attention de ne pas dire oh, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Non, nous sommes un groupe de coordination, donc je crois qu'il nous faut justement nous adresser à nos différents partenaires et leur demander d'identifier les éléments qui sont nécessaires afin que nous puissions mettre tout le système en place. Autre commentaire que j'ai à faire, et il est relatif au groupe de travail intercommunautaire sur le nommage. Le dernier graphique que j'ai vu de leur part, c'est que le dernier calendrier indiquait qu'ils devraient pouvoir avoir une proposition d'ici le 25 juin. Cela est peut-être optimiste, parce qu'ils sont encore en phase de consultation, de discussion, avec quelques conflits, mais en tout cas, nous pouvons partir de ce qu'ils ont dit comme étant une possibilité, donc le 25 juin. Merci beaucoup. Russ, maintenant, à vous la parole. Russ, Mandy, est-ce que vous êtes là? Ça y est, j'ai mis mon micro en marche. Alors, je voulais commenter tout à l'heure sur ce qui a été dit par Cabos. Je crois qu'il a dit, si j'ai bien compris, que la mise en œuvre, en fait, ne s'appliquait qu'à ce qui nous vient du CWG et du CCWG. En fait, je crois que ce n'est pas exact. Il y aura des détails sur la mise en œuvre qui nous viendront d'autres communautés opérationnelles, beaucoup plus petites, bien sûr, et qui auront moins d'impact, mais je crois qu'on doit les prendre en compte. Par exemple, le contrat ou les contrats qui ont été identifiés par rapport à la proposition ou certaines des choses qui nous sont revenues de l'NTIA. Et je crois qu'en tant que groupe de coordination, et d'ailleurs on en parle sur le chat, notre travail inclut vraiment le rassemblement des points de vue de toutes les communautés opérationnelles sur la mise en application de leur plan tel qu'ils le connaissent. Et à mon avis, il est clair qu'il n'y a qu'une seule question à poser, ou en fait, il n'y a qu'une seule question à laquelle la NTIA, à laquelle nous pouvons répondre, est-ce que nous arriverons à respecter le délai de base? Eh bien non. Maintenant, je pense que c'est à la NTIA de décider par rapport à ce que nous savons. Nous allons leur donner nos informations, leur dire où nous en sommes, et ensuite c'est à eux de décider de quoi faire du contrat. C'est à eux de le faire. Merci beaucoup. Milton?
Milton, je ne vous entends pas. Vous m'entendez, c'est Milton au micro. Oui, on vous entend. Bien, c'est Milton Mueller qui prend la parole ici pour les procès-verbaux. Donc, en fonction de ce qu'a dit Russ, je voudrais dire qu'on a discuté du niveau de prolongement dont on aurait besoin, s'il s'agit de 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne pense pas que ce soit ça que la NTIA nous demande. Je ne pense pas qu'il nous demande quelle est la période de temps supplémentaire dont on aurait besoin, mais plutôt, est-ce que, en fonction de notre calendrier révisé, on aurait besoin de demander un prolongement? J'aimerais bien être en mesure de leur dire de combien de temps on aurait besoin, mais je ne pense pas que ce soit à nous de le dire. Si quelqu'un a d'autres informations, il pourrait bien dire ce qu'ils veulent. Chacun est libre de demander le temps qu'il veut. Mais d'autre part, il me semble qu'on ignore ici une autre partie très importante de cela, c'est la possibilité qu'il y ait du consensus, qu'il y ait un manque d'accord sur les différentes cette décision, en particulier à ce point-là, puisqu'on a déjà envoyé des réponses à la NTIA, on aura déjà envoyé des propositions à la NTIA. On aurait une période de commentaires publics en août, normalement, qui a des résultats qui sont incertains pour nous. On ne sait pas s'il va y avoir du consensus ou pas par rapport à cela. Il pourrait s'avérer que l'on ait besoin d'un mois de plus. Si on est optimiste en tout cas. Donc je pense qu'ici, en définitive, on devrait se demander qu'est-ce qu'il faut que l'on réponde à la NTIA. C'est pas nous qui contrôlons ce calendrier. C'est tout pour moi, merci. Merci, Indy Patrick. Alissa? Alissa Cooper prend la parole. Merci, Patrick. Je voulais simplement soutenir ce que Martin était en train de dire et essayer de répondre moi-même à cette question. Je pense qu'en tant qu'organe de coordination, il faudrait qu'on fasse des enquêtes par rapport à la période nécessaire pour la mise en œuvre. Je pense qu'on serait bien capable de pouvoir réunir ces informations et de les remettre à la NTIA. Ce n'est pas impossible pour nous de le faire. Donc je serai d'accord avec Russ Mundy lorsqu'il dit aussi qu'il y a d'autres parties de la mise en œuvre qui dépendent du CCWG et qui doivent bien sûr être informées aussi à la NTIA. Donc la NTIA pourrait bien poser une question. Une question qui pourrait être envoyée aux communautés opérationnelles, par exemple, qui nous remettrait ces informations. Alors, j'espère que l'on pourra agir de la sorte, communiquer avec la communauté pour leur demander de répondre à ces questions. Il faudrait donc que l'on soit prêt pour toutes les contingences possibles. Et il y a des personnes qui disent que, par exemple, si on est tous d'accord sur une base consensuelle sur des différentes modifications qu'il faudrait que l'on fasse, on devrait essayer d'estimer quel est le niveau d'information nécessaire pour pouvoir atteindre le consensus. Pour voir, en tout cas, quel est le travail nécessaire pour voir si on peut respecter les délais que l'on a en ce moment sur l'écran ou pas. Si on ne peut pas respecter ces délais, si on suppose que tout fonctionne correctement, que tout va bien, eh bien, on va supposer que les délais seraient respectés. Si, supposant qu'on respecte le travail qui reste à faire, et qu'on aura besoin de plus de temps, on pourrait commencer à estimer s'il nous faut 6 mois ou combien de temps il nous faudrait. S'il nous faudrait 9 mois, par exemple. Donc je pense que c'est ça qu'il faudrait que l'on fasse. Si ce pourrait qu'il nous faille 9 mois pour la mise en œuvre uniquement, par exemple. Donc on pourrait peut-être se concentrer sur le temps qu'il nous faut, par exemple, pour pouvoir commencer à avancer avec la mise en œuvre. Patrick prend la parole. Merci. Maintenant, on donne la parole à Cavus. Cavus prend la parole, oui. Je n'entendais pas très bien Daniel lorsqu'il parlait, mais je voulais dire qu'on ne peut pas parler de réduction de compte de mise en œuvre et de responsabilité par rapport à la mise en œuvre en dehors de notre groupe. Ça ne dépend pas de nous. On a différentes communautés. Et il ne nous faut pas d'autres types de reddition de compte parce que cela ne dépend pas de nous. Ce travail pourrait exiger une responsabilité, une transparence du CWG. Dans le cadre de la transition, dans le cadre du système de la CAN, donc le CWG, le CCWG et d'autres groupes pourraient faire des suggestions par rapport à l'élaboration de leur travail. Avant 2016. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas que l'on discute de la transition ou du plan de transition et de mise en œuvre, mais plutôt que cette mise en œuvre liée à la mise en œuvre et à la responsabilité devrait être un sujet que l'on abordera avec prudence. C'est tout. Il ne faut pas que l'on juge si on a raison ou pas. Merci. Patrick prend la parole. Merci, Cavus. On a bien compris votre message. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que c'est bien que cette lettre ait été envoyée aux autres groupes également, parce que chacun de nous peut répondre par rapport au contexte dans lequel il opère. Donc c'est ça que je semble avoir compris. Manal? Manal Ismail prend la parole. Merci Patrick. Je ne comprends pas vraiment si on va répondre à la lettre en incluant le temps spécifique nécessaire pour la mise en œuvre. Mais est-ce qu'il faudrait que l'on entre dans les détails de la mise en œuvre ou du plan de migration ou du plan de transition? Ou alors est-ce que ces plans seraient internes des communautés opérationnelles? C'est ça ma première question. Ma deuxième question, et que pour avoir la mise en œuvre de mise en œuvre, il faudrait que l'on ait des calendriers de mise en œuvre, de contribution, de participation au CWG, par exemple, qui est également chargé de la coordination du CCWG. Donc, comment est-ce que ce travail en matière de synchronisation des calendriers avec le CWG pourrait-il répondre vos délais nécessaires pour la mise en œuvre avant la transition finale de la proposition? Je sais qu'on ne peut pas répondre dans leur nom, mais je suis en train d'exprimer ma préoccupation et mes questions, mes doutes. C'est tout. Merci. Patrick prend la parole. Merci Manal pour répondre ici à votre question spécifique par rapport au CWG, par rapport aux périodes de mise en œuvre et au temps qui est nécessaire pour eux, le temps qu'ils pensent est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre leurs propositions. Il faudrait que le CWG évalue quelle est la période dont ils ont besoin, même s'ils ne comptent pas répondre spécifiquement avec ces informations. Comme Alissa a dit, ils devraient essayer d'interagir. On devrait, nous, essayer d'entendre, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Qu'est-ce qu'ils expriment comme nécessité? Peut-être que pour eux, ce qui est externe n'est pas ce qui est externe pour nous. Peut-être qu'ils savent quel est le délai nécessaire, mais ils ne nous l'ont pas dit. Ils sont pas obligés de nous le dire. Donc voilà pourquoi je pense que des fois, l'interaction avec les différentes communautés opérationnelles à travers les connexions informelles que nous avons serait la meilleure approche pour nous d'ici la semaine dernière. Alors on a maintenant Shodong et puis Jean-Jacques. Et je voudrais voir si Alissa peut essayer de résumer ou je le ferai moi-même sinon. Donc, Shadong, allez-y. Shadong Li prend la parole. Vous m'entendez? Patrick prend la parole. Oui, on vous entend. Shadong Li prend la parole. Merci. J'ai un commentaire à faire. En tant que membre de l'ICG, est-ce qu'il serait nécessaire que l'on connecte nous-mêmes les informations nécessaires, obligatoires pour la transition ou pas? Est-ce que cela serait nécessaire vraiment pour pouvoir passer à l'étape de mise en place? En tant que communauté, je pense d'autre part que c'est notre devoir de pouvoir transmettre le message des acteurs à la NDIA. Donc on devrait être sûr des contenus du message qu'on aura à transmettre. Merci. Patrick prend la parole. Merci, Shadong. Je vais donc maintenant donner la parole à Jean-Jacques Subrenard. Merci, Patrick. Ici Jean-Jacques. Je voudrais que l'on précise un peu quelques points qui sont un peu ambigus par rapport à la lettre de la NDIA. Il parle de mise en œuvre, mais est-ce que c'est vraiment la mise en œuvre d'une proposition? On ne sait pas vraiment si parle ici d'une mise en œuvre et si c'est la communauté qui devrait s'occuper de cette mise en œuvre ou si c'est eux qui vont s'en occuper. Alors, je vois ici qu'il y a deux aspects différents pour répondre à cette lettre. D'une part, on a la nécessité de réponse, d'information, et puis la considération de la communauté. Si la communauté juge que cette question est également nécessaire, à partir de cette partie-là, je pense que pour pouvoir répondre, si on considère ces questions, il est nécessaire pour nous de communiquer avec la communauté. Ce serait à la communauté de participer. D'autre part, le gouvernement des États-Unis devrait également être inclus dans ce processus. Alors, on ne peut pas essayer de deviner ce que la communauté pense. Si c'est à la NTIA de s'occuper ou si c'est au gouvernement, à la communauté ou au gouvernement de s'en occuper. Donc, il faudrait que l'on ait ces informations précisées. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils impliquent par la mise en œuvre? Autrement, on est en mesure de répondre à la première partie, mais on ne peut pas garantir que l'autre partie de la lettre sera bien répondu. Merci beaucoup, dit Patrick. Maintenant, Alissa va prendre la parole. Alissa prend la parole, bien. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord sur le fait que nous, la communauté, pourrions avoir besoin d'un peu plus de temps pour évaluer les contrats discutés par chacune des communautés, les propositions et la transition. À partir de cette lettre, on pourrait juger que les représentants de la communauté pourraient corriger les informations que nous avons par rapport au cadre de mise en œuvre. Mais il n'est toujours pas clair qu'est-ce qu'ils impliquent par mise en œuvre, qu'est-ce qu'ils veulent dire par cela, quelle est l'information qui serait nécessaire d'ajouter à ce type de délai. Donc je pense qu'on devrait continuer de discuter de cette question. Pour certaines personnes, c'est peut-être clair, mais pour moi, la communauté pourrait bien penser que l'ICG va préparer un plan qui devront suivre. Et donc, on devrait peut-être demander d'autres informations. Mais le plan est toujours en cours d'élaboration, en tout cas, donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire que l'on prenne plus de temps pour répondre à cette question de mise en œuvre. Il nous faut simplement des informations, des précisions sur ce qu'ils veulent dire par mise en œuvre, qui sera chargé d'assurer cette partie de la mise en œuvre. Alors, pour pouvoir avancer, il nous faudrait un peu plus d'informations pour nous mettre d'accord sur cette partie de la mise en œuvre à laquelle il faudrait répondre et puis vérifier ce que la communauté en pense et combien de temps il nous faudrait pour pouvoir avancer avec les propositions mêmes. Alors, l'ICG devrait discuter du processus de finalisation de la proposition d'abord aussi, ce qui constitue un processus interne. Patrick, est-ce qu'il m'a manqué une partie des questions à répondre? Non, je pense que c'est un bon résumé. Vous avez bien récapitulé, Alissa. Est-ce que vous voulez assumer le contrôle de l'appel ou pas? Oui, je peux essayer. Nous allons maintenant donner la parole à Vote for Rich en réalité pour qu'il aborde la partie suivante de l'appel qui est la préévaluation du CWG. Merci tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Allô, c'est Vote for Rich qui parle. Vous m'entendez? Nous allons maintenant passer à ce deuxième sujet. Qui est cette question de préévaluation de la proposition du CWG. Alors, j'ai fait cette proposition d'aborder cette question interne qui est notre préévaluation, pensant à comment on pourrait passer à la période de consultation publique pour pouvoir évaluer si la proposition pourrait en fait être envoyée telle quelle à la NDIA.
Et donc,
je crois qu'elle aura été finie.
Donc maintenant, nous en sommes à la période de commentaires et après la période de commentaires, nous allons renvoyer ceci aux parties prenantes, aux différents comités consultatifs, aux différents groupes de parties prenantes et il pourra y avoir davantage de commentaires également qui seront faits sur la base de cette proposition. Quoi qu'il en soit, la cible de cette préévaluation, l'objectif n'était pas de juger du contenu de la proposition en elle-même, mais plutôt d'essayer de voir si elle était réellement finalisée. Et, si possible, donc d'identifier les questions qui pourraient être envoyées au CWG, pas au commentaire public, mais peut-être de manière séparée, avec pour objectif de les guider en termes des attentes que nous pouvions avoir. Donc, voilà en fait l'idée de base des directives. Donc, pour cette préévaluation de la proposition. Alors, ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai utilisé le même format, la même feuille que précédemment. Il y avait donc différentes questions et donc on a essayé de trouver des réponses et il s'est avéré que certaines questions n'ont pas trouvé de réponse parce que le processus est en cours, mais il y a en fait des questions majeures qui restent par rapport à cette proposition et c'est justement ce dont nous parlons depuis une heure. La question de bien comprendre le niveau de mise en œuvre qui sera détaillé dans cette proposition avant de l'envoyer à la NTIA. La question, c'est en fait une question qu'on essaye d'éviter, et c'est de savoir si le plan fait de la mise en œuvre est couvert et dans quelle mesure, à quel niveau de détail. Mais bon, pour moi, je pense que c'est quand même un point majeur. Alors, en ce qui concerne les autres points de cette préévaluation, on peut les passer en revue rapidement et comme vous pouvez le voir, il y a donc des délais, par exemple. Alors, passons justement à ce point. Est-ce que je peux contrôler la présentation sur Adobe? Ou est-ce que chacun peut contrôler son propre affichage? C'est une question. Je crois que chacun a son propre... Chacun contrôle sa propre présentation, son écran. Alors, passons à la deuxième page. Uniformité des exigences par rapport à l'appel à proposition. Donc, deux questions, comme vous le voyez, n'ont pas trouvé de réponse. Que nous attendons encore les commentaires avant finalisation de la proposition. Quant à la question de définition du consensus, alors il y a deux options. Et en fait, la définition est différente de celle que nous avions utilisée par le passé. Donc il faut bien que nous nous comprenions là-dessus. Donc le consensus est défini selon ce qui a été établi par le CCWG. Ensuite, à la page 3, le consensus n'a pas encore été atteint, donc normalement, puisque nous sommes encore en cours de travail. Et si vous passez donc à la page 4, exigence de l'appel à proposition. Donc, pour ce qui est des critères de l'évaluation, nous allons donc les évaluer, justement. Et donc, le troisième critère, c'est donc la question de la surveillance proposée suite à la transition et des mécanismes relatifs à la responsabilité. Alors, qu'est-ce qui est suggéré ici? En fait, il y a deux étapes. La première étape, ce serait donc un petit peu une proposition cadre, pour ainsi dire, qui expliquerait un peu à quoi devrait ressembler cette nouvelle IANA et ce qui est nécessaire, c'est donc de fournir un plan de transition pour l'opérateur des fonctions IANA Et donc, ce plan devrait être développé après la transition. Et donc, dans les 18 mois. Donc, pour moi, il y a une question qui demeure, dont on a parlé. Est-ce que ceci suffit ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait davantage de détails qui soient donc donnés avant la transition. Ensuite, en ce qui concerne les critères de la NTIA, moi, il me semble personnellement que les critères, nous pourrions y répondre. Il est possible que nous n'ayons pas tous la même opinion là-dessus, mais en ce qui me concerne, c'était mon impression. Et donc, à la fin, vous avez un critère relatif à une solution donc potentielle par avec gouvernance par gouvernement. Donc, il faudra donc que cette... donc, c'est une proposition qui ne tient pas puisque la proposition ne sera pas basée sur les gouvernements. Donc, la seule question majeure qui demeure, et donc ce serait la question que je présenterai au CWG, c'est donc la question du plan de mise en œuvre. Donc, la question que je me posais en faisant cette préévaluation, c'est s'il y avait des commentaires. En tout cas, je suis prêt à discuter de ce que je viens de présenter. Est-ce que vous pensez qu'il faut le garder tel quel ou est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'on passe à la période de commentaires? Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci Wolf Ulrich. Alors, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, nous vous entendons. Donc, nouvel intervenant au micro. Donc, Wolf Ulrich, vous avez donc bien identifié le fait que la proposition n'est pas terminée. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, tout ce qui était en votre pouvoir. J'ai simplement une question sur un point sur lequel je suis un petit peu perplexe. Donc, le critère NTIA, nous le savons, donc ce n'est pas une organisation gouvernementale, d'accord. Nous reposons sur un modèle multipartite, d'accord. Mais je pense qu'on pourrait en dire un petit peu plus par rapport au maintien de la sécurité, de la résilience, de la stabilité du DNS. Mais par contre, c'est la question des clients. Je n'ai pas bien compris ce que vous disiez là dans le dernier paragraphe. Vous dites que les registres au début du processus de développement de la proposition n'ont pas conservé le status quo avec aucun donc gros changement structurel. Qu'est-ce que cela signifie? Donc ne pas conserver le status quo. Ah, c'est pas décliné, c'est donc ils n'ont pas été enclins. Donc c'est une erreur dans la phrase. Donc moi je pense qu'il y a des registres qui effectivement allaient dans ce sens, mais pas tous. Parce qu'il y a un certain nombre de CCTLD qui appuyaient Contracco et qui pensaient qu'il y avait... Enfin, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de discussions là-dessus. Moi je me demande pourquoi vous avez mis cette phrase. Pourquoi est-ce que vous avez décrit les choses ainsi? Wolf Ulrich, avez-vous une réponse à ça? Bon, déjà, on pourrait peut-être proposer de changer. changer ce mot et puis on peut en parler ensuite en ligne. J'ai terminé. Merci Milton. Moi j'ai une question, Wolf. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Le numéro 3, donc appel à proposition, les exigences dont vous avez le plan de transition qui est opposé à un autre point. Et ce n'est pas bien défini. Donc, lorsqu'on parle de plan de transition, est-ce que c'est un plan de transition qui s'éloigne du PTI? Est-ce que c'est en fait un organisme choisi par la communauté qui ne poursuit pas le PTI? Et donc, il faudrait un plan de transition qui définisse donc cet éloignement du PTI? Ou est-ce que je n'ai pas bien compris ce que vous avez... en fait, je ne connais pas bien toute la proposition, mais je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire par là. Wolf, au micro. Si j'ai bien compris la proposition, et peut-être que Milton pourra commenter là-dessus, ou d'autres personnes qui sont membres de ce groupe pourront peut-être clarifier ce qui est écrit, mais... Donc, le cadre de la transition aux opérateurs. Donc, vous savez, cette proposition ne peut pas vraiment définir un cadre de travail pour cette transition pour l'opérateur. Mais ce cadre de travail, en fait, il doit être développé. On doit lui donner davantage de détails. Et j'imagine que pour cela, il faudra environ 18 mois pour tout élaborer. Donc, cela reste en suspens pour l'instant. Mais cela a un impact sur le plan en lui-même. Alors, est-ce que cela est simplement... existe simplement parce qu'il doit remplacer autre chose? Mais de toute façon, il faut qu'il y ait davantage de détails pour clarifier à la NTIA ce qui va se passer. Donc, en fait, c'est une question. Allez, sans micro. D'accord, merci, je comprends un petit peu mieux maintenant. Y a-t-il d'autres personnes qui ont des commentaires, des questions par rapport à ce qui a été présenté par Wolf? Ou alors, si vous avez d'autres pensées par rapport au CWG, par rapport à ce que vous avez lu sur la proposition également, par vous-même. Bon. De mon point de vue, je crois que la question relative au niveau des détails dans la proposition, c'est une question tout à fait pertinente. Maintenant, j'apprécie le fait que les détails sont en cours de travail et qu'il y a certains groupes qui ont beaucoup de détails, d'autres moins. Donc, je sais que ce n'est pas forcément une réponse que nous pouvons apporter, mais en tout cas, je comprends, c'est une question qui demeure. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc je pense que nous pouvons... Ah, attendez, il y a encore une personne. Donc, autre intervenant. Donc, le statut de la proposition est... La question de la fournir aux commentaires, eh bien, je crois que cela dépendra de ce qui sera donc décidé. Et une fois que les commentaires publics auront été passés en revue, une fois que les points de vue des autres auront été identifiés, nous pourrons donc déterminer ou décider de ce qui devra être inclus. Voilà. Allez, ça, merci qu'à vous. Oui, je pense que de toute façon, c'est ce à quoi on s'attend. Ce qu'on souhaitait simplement faire, c'est de vous poser des questions pour savoir si un petit peu vous avez des choses à dire dans les médias. Mais sinon, nous pouvons passer à notre point suivant dans l'ordre du jour. Alors, nous avons maintenant un message, donc Steve Cracker, sur la déclaration de l'ICG sur les contrats et autres accords. Donc, vous le voyez à l'écran. Et donc, voilà la réponse que nous avons eue de Steve. Donc, en fait, l'ICANN est d'accord avec la déclaration que nous avons faite. Et donc... Je n'ai pas vu de réponse à ceci dans la liste et on peut toujours vérifier, voir s'il y a autre chose. Et donc, voilà. C'est... Mais je voulais simplement en fait soumettre ceci au groupe pour savoir s'il y avait des discussions, des commentaires. J'ai vu une main se lever, mais elle s'est rebaissée. Il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Autre intervenant en micro. Je crois qu'on pourra peut-être faire les choses rapidement. On peut simplement remercier le président du conseil d'administration pour sa réponse, et puis c'est tout. Passer à autre chose. Allez, ça en micro. Oui, je suis d'accord, c'est bon. Et je vois que les gens sur le chat appuient cette proposition, donc c'est entendu. C'est facile. Donc, nous pouvons maintenant passer au reste. Donc, approbation du compte-rendu de la dernière fois, du 22 avril. Alors, voilà donc le compte-rendu du 22 avril de notre téléconférence. Donc, cela fait déjà un certain temps qu'elles ont été tapées, qu'il a été tapé ce compte-rendu. Donc, j'espère que les gens ont eu le temps de les lire. Donc, je vais vous demander simplement de les approuver. Je vous laisse quelques minutes pour les regarder. Très bien, je ne vois pas d'objection, donc le compte-rendu est approuvé. Je vais donc demander au secrétaire de le faire.
Bien, il nous reste alors un seul point de l'ordre du jour, qui est la programmation des appels futurs. Patrick, est-ce que vous voulez modérer ici ? Point ou vous voulez que je continue? Patrick prend la parole. Non, pardon, j'étais en muet. Non, je pense que vous pouvez le faire vous-même. Alice prend la parole. Bien. Alors, pour les prochains appels, on a créé des sondages Doodle pour voir quelles étaient les possibilités des gens qui participent. Je pense qu'on a eu un bon niveau de participation aujourd'hui et qu'il faudrait que l'on maintienne ce niveau d'intérêt et de participation. Et donc discuter de ces questions de mise en œuvre dans un prochain appel pour pouvoir vraiment définir et conclure notre programme, notre calendrier de travail de l'ICF. Donc juste avant cet appel, j'ai vérifié que cette annonce n'ait pas été faite pour l'instant, mais donc je vous annonce à ce point-là qu'on aura un appel la semaine prochaine. On a essayé également de programmer un appel pour le 10 juin. Je pense que cette période de 2 heures a bien fonctionné aujourd'hui. Et c'est toujours mieux d'avoir du temps en trop dont on pourrait se servir pour préparer l'appel suivant ou les réunions suivantes pour discuter des consultations publiques, par exemple. Alors, c'est vraiment utile de programmer des appels de 2 heures. Puis, on aura la réunion de la CAN. Et il nous restera toujours une séance de travail. Je ne sais plus si c'était le 26 ou le 25. Juin, mais c'est, en tout cas, c'est le jeudi de la réunion de la CAN. Donc, c'est ce jeudi matin. Pour pouvoir avoir une réunion de conclusion, pour tirer les leçons apprises le long de la réunion de la CAN. Donc lors de cette réunion, il serait utile de profiter de ce temps pour pouvoir créer un nouveau programme de travail. Et puis, en juillet, on devrait fixer une date pour le premier appel après la réunion de Buenos Aires. Et le secrétariat, bien sûr, va envoyer le calendrier habituel. Donc, si on n'a pas conclu avec les propositions pendant la réunion de la CAN, ce nouvel appel nous permettra de discuter de la proposition que j'espère on aura reçue à la fin de la réunion de la CAN. Donc, ce devrait être un appel de 2 heures aussi, après la réunion de la CAN. On pourrait bien sûr modifier cela si, quand le moment sera venu, on n'a pas besoin de autant de temps. Mais pour l'instant, on va programmer 2 heures, ce qui est bien mieux. Y a-t-il donc des commentaires, des remarques à faire sur ce programme potentiel? Oui, Cavus, allez-y. Cavus prend la parole. Bien. Après ICAN 53, les réunions sont vraiment provisoires. Donc on va voir si c'est nécessaire d'avoir ces réunions ou pas, n'est-ce pas? Allez, ça prend la parole. Oui, c'est ça. Mais on voulait en tout cas noter ces dates pour que tout le monde en prenne note dès maintenant, que tout le monde sache qu'il est possible qu'on ait ces appels. D'autres questions, d'autres remarques? Martin? Merci Alissa, c'est Martin. Je voudrais que l'on revienne sur la réunion de la fin juin. On a ici une réunion tentative jeudi, donc vers la fin de la réunion de la CAN. Et cette réunion a été modifiée, elle a été passée à vendredi. Alice, ça prend la parole. Non, en fait, c'est jeudi, mais on a fait une erreur ici. Ah, bien, ça me soulage, hein, dit Martin. Donc c'est bon, je n'ai rien à dire. Alice, ça prend la parole. Oui, c'était juste une erreur. Daniel?
Daniel prend la parole. C'est juste pour demander si on aura la participation à distance pour ces réunions de la fin de juin. Je pense que le secrétariat nous demande ici d'autres informations, c'est bien ça? Oui, il y a des questions de précision qu'il nous demande. Pour voir si à la fin de la réunion de la CAN, on pourrait tous savoir ces autres calendriers. Pour la discussion de la proposition du CWG, pour discuter de ces questions officiellement. Donc, ça pourrait ne pas être vraiment utile de faire cela ad hoc à la fin de juin. Il pourrait y avoir un conflit entre les différents calendriers, les différentes possibilités. Alice prend la parole. Alors, vous dites que après l'appel du 8 juillet, vous voulez avoir des appels ad hoc. C'est ça ce que vous dites? Martin prend la parole. En fait, je préférais que l'on agisse de cette manière et d'après ce que Cavus a dit, lui, il parlait même de la fin juin. Donc, on parlait de la fin de juin ou des réunions du début juillet. Lui, il parlait de fin juin, mais il me semble que ça devrait être après la réunion du 8 juillet pour être plus pratique. Alice prend la parole. Oui, je pense que ce serait plus facile pour les gens de le programmer après le 8 juillet, c'est vrai. Cela nous permettra donc de programmer l'appel du 8 juillet et puis voir comment on continue à partir d'août. Martin prend la parole. Oui, c'est toujours plus simple d'annuler des appels lorsqu'on a déjà prévu de participer à un appel que de programmer un appel avec peu de temps. C'est ça que je veux dire. Bien, dit Alissa. Alors, sauf s'il y a des exceptions, des objections, je pense qu'on travaillera avec le secrétariat pour programmer ces appels du juillet et d'août. Oui, bien sûr, dit Martin. Y a-t-il d'autres remarques sur ce calendrier d'appel? Bien, super. Alors, il me semble qu'on a fini ici, ça y est. 90 minutes étaient peut-être un peu plus précis comme période nécessaire. Je vous remercie tous et on se reparlera la semaine prochaine.